France Musique.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans nos arabesques qui se dérouleront aujourd'hui en compagnie de Céline Parfenoff, Martine Moni, Alexandre Billard, Valentin Bobinet et Olivier Déhay. Nous allons célébrer aujourd'hui le centenaire d'un spectacle qui a défrayé la chronique dans le Paris des années folles. Le 18 juin 1921, il y a 100 ans jour pour jour, a été présenté Les Mariés de la Tour Eiffel, spectacle de Jean Cocteau sur des musiques du groupe des 6 que nous écouterons intégralement aujourd'hui. Ce sera à partir de 14h environ. Mais dans cette première demi-heure d'émission, je vous propose de revenir sur les origines de ce groupe des 6, rassemblement éphémère mais historique de Germaine Taillefer, Francis Poulenc, Arthur Honegger, Darius Milhaud, Georges Auric et Louis Duret autour de Jean Cocteau. Et dans un esprit potache et assez insouciant, répondant aux atrocités de la Grande Guerre, et surtout dans l'héritage direct d'Éric Satie. D'ailleurs, voici deux membres du groupe des 6 pour un extrait au piano à quatre mains du spectacle Parade qu'Éric Satie avait présenté en 1917, ballet sur un argument de Jean Cocteau. Parade ici joué par Georges Auric et Francis Poulenc.
Thank you.
18 mai 1917 au théâtre du Châtelet à Paris. Tandis que la guerre faisait encore rage dans les tranchées, on présentait au théâtre du Châtelet donc le ballet Parade avec les ballets russes de Diaghilev, musique d'Éric Satie, arguments de Jean Cocteau, décors, costumes et rideaux de scène de Pablo Picasso, rideaux de scène qui existent encore aujourd'hui, étaient encore aujourd'hui conservés au Châtelet, chorégraphie de Léonide Massine, et nous écoutions le prestidigitateur chinois dans Parade de Satie avec ici l'orchestre de la Société des concerts du Conservatoire, dirigé par Louis Auriacombe, ce prestidigitateur chinois joué auparavant par Georges Auric et Francis Poulenc. C'est à cette époque, 1916-1917, que se forme la réunion de six camarades du conservatoire, dont je citais les noms tout à l'heure, mais c'est en 1920, sous la plume de Henri Collet, dans un article de la revue Comédia, que va naître cette expression de groupe des six, inspirée du groupe des cinq dans la musique russe. Six compositeurs, en tout cas cinq compositeurs, une compositrice, très différents les uns des autres, ce qui ne fait de ce groupe des six ni une école, ni un mouvement artistique. C'est vraiment un rassemblement, une association autour de quelques partitions, je dirais même de deux partitions, et plus exactement d'une seule partition, ils ont été rassemblés tous les six. C'est l'album des six pour piano que nous allons écouter tout à l'heure. Pourquoi ? Eh bien parce que les Mariés de la Tour Eiffel, ce sont les six, moins un, Louis Duret, ne faisait pas partie de cette aventure qu'on évoquera aux alentours de 14h. Alors, voici donc le premier et le seul élément de ce rassemblement du groupe des six, la première et la seule œuvre qui les rassemble tous les six, c'est l'album des six pour piano. Donc voici un premier extrait interprété par Andrew West, prélude de Georges Auric, romance sans parole de Louis Duret et sarabande d'Arthur Honegger. Thank you. Andrew West interprétait les trois premiers titres de l'album des six préludes de George Auric, Romance sans parole de Louis Duret et à l'instant Sarabande d'Arthur Honegger. Louis Duret étant le moins connu des six, le plus ancien, lui qui est né en 1888 et qui avait formé avec Arthur Honegger et Satie le groupe des Nouveaux Jeunes pendant la Grande Guerre, un groupe qui sera peu ou prou à l'origine du groupe des six inspiré par Satie. Louis Duret s'engagera ensuite activement dans le Parti communiste français, puis dans la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale, écrivant une centaine d'œuvres musicales en plus de son travail de critique. Alors les six se retrouvent la plupart du temps chez Darius Milhaud, Milhaud qui a passé une partie de la guerre au Brésil comme secrétaire de l'ambassadeur de France Paul Claudel, et Milhaud rapporte du Brésil de nombreux souvenirs musicaux. Il s'inspire directement d'une mélodie pour écrire l'une de ses partitions la plus célèbre, c'est Le bœuf sur le toit, d'où l'expression faire le bœuf, et ce bœuf sur le toit sera également un établissement fréquenté par tous les gens de cette époque. C'est Milhaud ici que nous écoutons dans un extrait de cette partition avec l'orchestre du Théâtre des Champs-Élysées sur France Musique.
Thank you.
Cinéma, symphonie sur des thèmes sud-américains. Voilà le sous-titre de ce Bœuf sur le toit de Darius Milhaud que le compositeur dirigeait ici à la tête de l'orchestre du théâtre des Champs-Élysées. Alors revenons à cet album des six avec la quatrième partie justement écrite par Darius Milhaud. C'est une mazurka qui sera suivie d'une valse de Francis Poulenc et conclue avec une pastorale de Germaine Taillefer. Germaine Taillefer dont la famille s'appelait en fait Taïfès, pour des raisons qu'on peut bien comprendre, le nom a été modifié. Germaine Taillefer, qui est une enfant de la petite bourgeoisie née à Saint-Maur-des-Fossés et dont le père a essayé de freiner les ambitions musicales, le père Taïfès ou Taillefer, qui, je cite, ne voyait pas la différence entre rentrer au conservatoire ou faire le trottoir. Fin de citation. Germaine aura quand même gain de cause et sera musicienne, compositrice, et elle va côtoyer à cette époque fin de la première guerre mondiale et début des années folles, et elle va côtoyer la bohème de Montparnasse, de Montmartre, avec Apollinaire, Picasso, Modigliani et ses petits amis du groupe des six. Voici Corinna Simon dans la mazurka de Milhaud, la valse de Poulenc et la pastorale de Taillefer sur France Musique.
Thank you.
c'est Corinna Simon que nous entendions là dans cet enregistrement réalisé en 2018. L'album des six, c'était la seconde moitié qu'on l'entendait avec la mazurka de Millau, la valse de Poulenc qui est à l'instant la pastorale de Germaine Taillefer.
Arabesque, François-Xavier Chemchak, France Musique.
Alors, nous voici dans le sujet de cette journée. Nous sommes le 18 juin 2021. Il y a 100 ans, jour pour jour, au Théâtre des Champs-Élysées à Paris, étaient créés Les Mariés de la Tour Eiffel, un ballet sur des musiques des groupes des six, sauf un, Louis Duret, qui pour des raisons que j'ignore n'était pas à Paris à ce moment-là. Et c'est un livret de Jean Cocteau absolument loufoque que nous allons retrouver. C'était une chorégraphie de Jean Berlin, des décors d'Irène Lagu, des costumes de Jean Hugo, pour un spectacle qui connaîtra un succès parisien et même international, puisqu'on jouera Les Mariés de la Tour Eiffel à New York en 1923. Pour la création, l'orchestre était dirigé par Désiré-Émile Engelbrecht, le fondateur de l'Orchestre National de France. Et il y avait deux narrateurs qui étaient Jean Cocteau lui-même et puis l'acteur Pierre Bertin, inénarrable acteur des Tontons Flingueurs qui joue le rôle du président de la foi, le père de Claude Riche, pour ceux qui connaissent ce grand moment de cinéma populaire. Alors, avant d'écouter ces Mariés de la Tour Eiffel, écoutons les témoins de cette époque. Tout d'abord, Germaine Taillefer, puis Francis Poulenc et Jean Cocteau.
Cocteau, qui était un ami de Satie et qui était très intéressé par notre groupement, par nos tendances, a pris la tête de notre groupe. Et il nous disait cette chose qui était merveilleuse et qui était exactement le reflet du moment. L'impressionniste vient de tirer son joli feu d'artifice à la fin d'une longue fête. C'est à nous de bourrer les pétards d'une autre fête. En réalité, nous sommes tous partis de cela. C'est ce qui nous a fait écrire cette soi-disant musique à l'emporte-pièce. En réalité, c'était, il fallait nous dégager de Wagner et des impressionnistes, de Debussy, de Ravel et de toute l'école. Vincent l'a dit.
Comment sont nés ces Mariés de la Tour Eiffel et comment sont-ils mariés
amicalement?
Oui, et si j'ose dire, musicalement, c'est né de la paresse d'Auric. J'ose le dire, car c'est Auric qui devait faire toute la... C'est Auric qui devait faire toute la partition.
Et qui a proposé qu'on s'y mette tous.
Qui a proposé qu'on s'y mette tous.
Ça s'est passé chez Jean Hugo, qui était alors le mari de Valentine Hugo, qui habitait au Palais Royal. Oui. Et nous avons décidé de faire l'œuvre tous ensemble.
Voilà. Et alors, Auric avait fait la ritournelle,
l'ouverture,
les ritournelles. Honegger avait fait une marche funèbre.
La marche funèbre, et toi, tu avais fait la
Moi, j'avais fait
la
baigneuse de Trouville et le discours du général.
Le discours du général.
Et puis, Germaine Taillefer avait fait le ballet des dépêches, et Darius Milhaud, la fugue massacre.
La fugue du massacre, oui.
Et comment ont été accueillis ces Mariés de la Tour Eiffel?
J'en vous le dirai.
C'était un affreux scandale. Nous avons commencé avec un succès fou, tout le monde riait, tout le monde applaudissait, et brusquement, quand le cortège de la noce est entré en scène, je ne sais pas si c'est la présence du général, pourtant il y a beaucoup de ganache dans toutes les pièces. Toujours est-il que le scandale a commencé. C'était un des scandales les plus terribles auxquels on puisse assister. C'était d'une violence extrême, puisque même des gens voulaient cracher à la figure de ma mère qui était dans une loge corbeille.
Ce qui était très particulier, en fond, c'est pas la musique de cette œuvre qui est tout à fait classique dans le genre, mais c'est le texte de Cocteau.
Ça, c'est Madeleine Millau qu'on entendait pour ces quelques phrases. Scandale de 1921. Scandale, d'ailleurs, ce sera le titre d'une série d'émissions que vous proposera cet été Jérémy Rousseau. Il sera peut-être question de ce scandale du 18 juin 1921, Les Mariés de la Tour Eiffel, dont voici l'ouverture 14 juillet, composée par Georges Auric, avec l'Orchestre Philharmonique de Nice, dirigé par Claire Gibault. Vous écoutez France Musique.
Thank you. première plateforme de la Tour Eiffel.
Tiens, une autruche. Elle traverse la Seine, elle sort. Voici le chasseur, il cherche l'autruche. Il lève la tête, il voit quelque chose, il épaule, il tire.
Ciel, une dépêche.
Une grande dépêche bleue tombe des frises.
La détonation réveille le directeur de la Tour Eiffel, il apparaît.
Ah ça, monsieur, vous vous croyez donc à la chasse?
Je poursuivais une autruche, j'ai cru l'avoir prise dans les mailles de la Tour Eiffel.
Et vous me tuez une dépêche.
Je ne l'ai pas fait exprès.
Fin du dialogue.
Voici le photographe de la Tour Eiffel, il parle, que dit-il?
Vous n'auriez pas vu passer une autruche?
Si, si, je la cherche.
Figurez-vous que mon appareil de photographie est détraqué. D'habitude, quand je dis ne bougeons plus, un oiseau va sortir, c'est un petit oiseau qui sort. Ce matin, je dis à une dame, un petit oiseau va sortir, et il sort une autruche. Je cherche l'autruche pour la faire rentrer dans l'appareil.
Mesdames, messieurs, la scène se corse, car le directeur de la Tour Eiffel s'aperçoit soudain que la dépêche portait son adresse.
Il loue.
Directeur, Tour Eiffel, viendront, noces, déjeuner, prière, retenir, table.
Mais cette dépêche est morte.
C'est justement parce qu'elle est morte que tout le monde la comprend.
Vite, vite, nous avons juste le temps de servir la table. Je vous supprime votre amende. Je vous nomme garçon de café de la Tour Eiffel. Photographe, à votre poste.
Ils mettent la nappe. Le cortège.
Marche nuptiale. Les phonos annoncent les personnages de la noce qui entrent par couple, en marchant comme les chiens, dans les pièces de chiens.
La mariée, douce comme un agneau.
Le beau-père, riche comme Crésus.
Le marié, joli comme un cœur.
La belle-mère, fausse comme un jeton.
Le général, bête comme une oie.
Regardez-le, il se croit sur sa jument Mirabelle.
Les garçons d'honneur, forts comme des turcs.
Les demoiselles d'honneur, fraîches comme des roses.
Le directeur de la Tour Eiffel leur fait les honneurs de la Tour Eiffel. Il leur montre Paris à vol d'oiseau.
J'ai le vertige.
Le chasseur et le directeur apportent une table avec les assiettes peintes dessus. La nappe touche par terre.
Le général s'écrie « À table, à table !» Et la noce se met à table.
D'un seul côté de la table pour être vue du public.
Le général se lève.
Discours du général.
Tout le monde est ému.
Après son discours, le général raconte les phénomènes de mirage dont il fut victime en Afrique.
Je mangeais une tarte avec le duc d'Aumale. Cette tarte était couverte de guêpes. Nous essayâmes en vain de les chasser. Or, c'était des tigres.
Quoi ?
Des tigres ! Ils rôdaient à plusieurs milles. Un phénomène de mirage les projetait en tout petit au-dessus de notre tarte et nous les faisait prendre pour des guêpes.
On ne dirait jamais qu'il a 74 ans.
Mais quelle est cette charmante cycliste en jupe-culotte ?
Entre une cycliste. Elle descend de sa machine.
Pardon, messieurs.
Madame, qu'y a-t-il pour votre service?
Suis-je bien ici sur la route de Château?
Oui, madame, vous n'avez qu'à suivre les rails du tramway.
C'est le général qui répond à la cycliste, car il vient de la reconnaître pour un mirage.
La cycliste remonte en selle et sort.
Mesdames, messieurs, nous sommes justement témoins d'un phénomène de mirage. Ils sont fréquents sur la Tour Eiffel. Cette cycliste pédale en réalité sur la route de Château.
Après cet intermède instructif, le photographe s'avance. Que dit-il?
Je suis le photographe de la Tour Eiffel et je vais faire votre photographie.
Oui.
Formez un groupe.
La noce forme un groupe derrière la table.
Vous vous demandez où sont partis le chasseur d'autruche et le directeur de la Tour Eiffel. Le chasseur cherche l'autruche à tous les étages. Le directeur cherche le chasseur et dirige la Tour Eiffel. Ce n'est pas une sinécure. La Tour Eiffel est un monde comme Notre-Dame. C'est Notre-Dame de la rive gauche.
C'est la reine de Paris.
Elle était reine de Paris. Maintenant, elle est demoiselle du télégraphe.
Il faut bien vivre.
Ne bougeons plus. Surveillez. Regardez l'objectif. Un oiseau va sortir.
Sort une baigneuse de Trouville. Elle est en maillot, porte une épuisette contenant un cœur et un panier en bandoulière. La noce lève les bras au ciel. Oh, la jolie carte postale! Danse de la baigneuse.
Le photographe ne partage pas les plaisirs de la noce. C'est la seconde fois depuis ce matin que son appareil lui joue des tours. Il essaye de faire rentrer la baigneuse de Trouville. Enfin, la baigneuse rentre dans l'appareil. Le photographe lui fait croire que c'est une cabine de bain.
Fin de la danse. Le photographe jette un peignoir éponge sur les épaules de la baigneuse. Elle rentre dans l'appareil en sautillant et en envoyant des baisers.
Bravo, bravo, bis, bis, bis.
Bis, bis et bis. Avril 1955, 34 ans après la création de ces mariés de la Tour Eiffel, Jean Cocteau faisait le récitant aux côtés de Jean Le Poulain et de Jacques Charon avec une adaptation musicale en condensé de quelques extraits qu'on va entendre maintenant sans commentaire avec l'orchestre Philharmonia dirigé par Geoffrey Simon, Darius Milhaud, La Marche Nuptiale et Francis Poulenc, Discours du Général. Francis Poulenc qui a été assez féroce à l'égard de ses mariés de la Tour Eiffel. Dans une lettre du 29 juillet 1923, il dit de cette œuvre, je cite, « Toujours de la merde, hormis l'ouverture d'Auric », l'ouverture qu'on écoutait tout à l'heure. Alors ne soyons pas aussi féroces que Poulenc, écoutons avec joie, 100 ans après sa création, ses mariés de la Tour Eiffel, avec « Marche nuptiale » de Darius Milhaud et « Discours du général » de Francis Poulenc. L'orchestre Philharmonia dirigé par Jeffrey Symon, c'était Discours du général de Francis Poulenc et auparavant Marche nuptiale de Darius Milhaud, extrait de ses mariés de la Tour Eiffel, dont voici la suite sur France Musique avec comme récitants Hervé Furic et Daniel Mesguich avec l'Orchestre National de Lille dirigé par Jean-Claude Casadesus. On écoutera la baigneuse de Trouville du même Francis Poulenc et puis juste après on changera d'orchestre avec la Grande Écurie et la Chambre du Roi de Jean-Claude Malgoire qui jouera la Valse des Dépêches de Germaine Taillefer. Mais donc, on commence avec l'ONL, Orchestre National de Lille, Jean-Claude Casadesus, Daniel Mesguich, les mariés de la Tour Eiffel, du groupe des 6, moins 1. Thank you.
les plaisirs de la noce. C'est la seconde fois depuis ce matin que son appareil lui joue des tours. Il essaie de faire rentrer la baigneuse de Trouville.
Enfin, la baigneuse rentre dans l'appareil. Le photographe lui fait croire que c'est une cabine de bain.
Le photographe jette un peignoir éponge sur les épaules de la baigneuse. Elle rentre dans l'appareil en envoyant des baisers.
Bravo, 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 bis, bis, bis.
Bravo. Encore. Si je savais d'avance les surprises que me réserve mon appareil détraqué, je pourrais organiser un spectacle. Hélas, je tremble chaque fois que je prononce les maudites paroles. Sait-on jamais ce qui peut sortir? Puisque ces mystères me dépassent, feignons d'en être l'organisateur.
Il salue.
Bravo,
bravo, bravo, bravo, bravo.
Mesdames, messieurs, malgré mon vif désir de vous satisfaire, la limite d'heure m'empêche de vous présenter une seconde fois le numéro « Baigneuse de Trouville ».
Si, 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 si. Le photographe ment pour arranger les choses et pour avoir du succès. Il regarde sa montre, déjà 2 heures, et cette autruche qui ne rentre pas.
La noce forme un autre tableau. Le marié, une main sur son cœur, tient de l'autre la taille de la mariée. La famille se range derrière. Le général abrite ses yeux et inspecte le sud. Il se croit le défenseur de la tour Eiffel. Si on l'attaque, il fera mourir chacun à son poste.
Le beau-père va parler. Que dit-il? Allons, allons, monsieur le photographe, dépêchez-vous. Cette photographie sera un souvenir pour le fils de mon gendre.
La mariée parle.
La fille, la fille! Nous voulons une fille!
Le photographe profite du désordre pour essayer de prendre une photographie instantanée. L'appareil refuse et lance de l'eau de Cologne.
Allons, prenez l'air naturel. Madame, votre pied gauche sur un des zèbres.
Assez! Assez! La noce se bouche les oreilles, le directeur de la tour Eiffel se précipite et pousse le diaphragme.
Madame? Votre pied gauche sera des éperons. Monsieur, accrochez le voile à votre moustache. Parfait, ne bougeons plus. 1, 2, 3. Regardez l'objectif. Un oiseau va sortir.
Il presse la poire. Sort un gros enfant. Il porte une couronne de papier vert sur la tête. Sous les bras, des livres de prix et une corbeille.
Bonjour maman!
Bonjour papa!
Voilà encore un des dangers de la photographie.
Cet enfant est le portrait de la noce.
Du reste, écoutez-la.
C'est le portrait de sa mère!
C'est le portrait de son père!
C'est le portrait de sa grand-mère!
C'est le portrait de son grand-père!
Il a la bouche de notre côté!
Il a les yeux d'une autre!
Mes chers parents, en ce beau jour, acceptez tous mes vœux de respect et d'amour!
Le même compliment vu sous un autre aspect.
Acceptez tous mes vœux d'amour et de respect!
Il aurait pu apprendre un compliment moins court.
Acceptez tous mes vœux de respect et d'amour.
Il sera capitaine,
architecte,
boxeur,
poète,
président de la République.
Oh, c'est un beau petit mort pour la prochaine guerre.
Que cherche-t-il dans son panier?
Des balles.
Que fait-il avec ses balles? On dirait qu'il prépare un mauvais coup.
Il massacre la noce!
Il massacre les siens pour avoir des macarons!
Grâce!
Quand je pense au mal que nous avons eu à l'élever,
à tous nos sacrifices,
misérable, je suis ton père.
Arrête! Il en est temps encore.
N'auras-tu pas pitié de tes grands-parents?
N'auras-tu pas le respect du galon?
Pan, pan, pan!
Je te pardonne.
Sois maudit.
Il ne reste plus de mal.
La noce est massacrée.
Le photographe court après l'enfant. Il le menace du fouet. Il lui ordonne de rentrer dans la boîte.
L'enfant se sauve. Il hurle. Il trépigne. Il veut vivre sa vie.
Je veux vivre ma vie! Je veux vivre ma vie!
Mais quelle est cette autre tapage?
Le directeur de la tour Eiffel, que dit-il?
Un peu de silence, s'il vous plaît. Ne faites pas peur aux dépêches.
Papa, papa, des dépêches.
Il y en a de grosses.
La noce se relève.
On
entendrait
voler
une
mouche.
Le directeur de la tour Eiffel montre au petit garçon comment il accroche un journal mort au milieu de la tour Eiffel pour attirer les dépêches vivantes.
Je les ai!
Les dépêches prises tombent en scène et se débattent. Toute la noce court après et leur saute dessus.
Là, là, j'en tiens une! Moi aussi! Au secours! À moi! Elle me mord! Tenez bon, tenez bon!
Les dépêches se calment. Elles se rangent sur une ligne. La plus belle s'avance et fait le salut militaire.
Mais qui donc êtes-vous?
Je suis la dépêche sans fil, et comme ma sœur la cigogne, j'arrive de New York.
New York?
ville des amoureux et des contre-jours.
En avant la musique! Danse des dépêches!
Puisque ces mystères nous dépassent, feignons d'en être l'organisateur. Ce n'est pas une confidence de politicien. C'est un extrait de ce texte facétieux de Jean Cocteau dans Les Mariés de la Tour Eiffel, récité tout à l'heure par Hervé Furic et Daniel Mesguich. Et à l'instant, on entendait la valse des dépêches de Germaine Taillefer par la grande écurie La Chambre du Roi dirigée par Jean-Claude Malgoire. Alors nous allons retrouver deux récitants absolument savoureux, deux grands hommes de théâtre et deux grandes voix dans les enregistrements des années 50, 60, 70, c'est Jacques Duby et surtout Pierre Bertin. Alors Pierre Bertin, voilà un comédien qui était très proche du monde de la musique, c'était le mari de Marcel Meyer, immense pianiste française, ami proche d'Éric Satie, et Pierre Bertin était avec Jean Cocteau le narrateur de ces Mariés de la Tour Eiffel il y a 100 ans jour pour jour. Pierre Bertin, c'est également 60 ans de cinéma, il a été le commissaire dans Orphée de Jean Cocteau, il a été dans La Grande Vadrouille le grand-père de Juliette, le propriétaire du Guignol, on l'a vu dans Les Tontons Flingueurs, je le disais, dans le rôle d'Adolphe Amédée de la Foix, et il termine sa carrière, ce très potache Pierre Bertin, dans Calmos de Bertrand Blier, ou encore dans Le Beaujolais Nouveau est arrivé, ça ne s'invente pas. Bref, un esprit loufoque et une diction aristocratique, voilà ce qui fait le charme de Pierre Bertin, à côté de Jacques Duby et de l'Orchestre National de l'ORTF, l'Office de Radio-Télévision Française, dirigé par Darius Milhaud, suite des Mariés de la Tour Eiffel de Jean Cocteau et du groupe des Six.
Arabesque, François-Xavier Chemchak, France Musique.
Mon gendre, remerciez-moi. Qui a eu l'idée de venir sur la Tour Eiffel ? Qui a eu l'idée de mettre la noce un 14 juillet ?
L'enfant trépigne.
Papa ! Papa !
Que dit-il ?
Je veux qu'on me tire en photographie avec le général.
Mon général, vous ne refuserez pas ce plaisir à notre petit Justin.
Soit.
Pauvre photographe, la mort dans l'âme, il charge son appareil.
L'enfant, à cheval sur le sabre, fait semblant d'écouter le général qui fait semblant de lui lire un livre de Jules Verne.
Ne bougeons plus. C'est parfait. Un oiseau va sortir.
Sors un lion.
Grand Dieu ! Un lion ! Le photographe se cache derrière son appareil. Toute la noce monte dans les cordages de la tour Eiffel. Le lion regarde le général. Car seul, le général ne bouge pas. Il parle. Que dit-il ?
N'ayez pas peur, je connais la théorie. Il ne peut y avoir de lion sur la tour Eiffel. Donc, c'est un mirage, un simple mirage. Les mirages sont en quelque sorte le mensonge du désert. Ce lion est en Afrique, comme la cycliste était sur la route de Chatou. De même, il arrive de voir la tour Eiffel dans le désert. Vous assistez, mesdames, messieurs, à un phénomène dit d'intermirage. Ce lion me voit, je le vois, et nous ne sommes l'un pour l'autre que des reflets.
Pour confondre les incrédules, le général s'approche du lion. Le lion pousse un rugissement. Le général se sauve, suivi par le lion.
Le général disparaît sous la table, le lion disparaît derrière lui.
Après une minute qui semble un siècle, le lion sort de sous la nappe.
Horreur ! Horreur ! Oh !
Que tient-il dans sa gueule ?
Une botte avec un éperon.
Après avoir mangé le général, le lion rentre dans l'appareil.
Oh.
Oh. Oh. Pauvre général.
Il était si gai, si jeune de caractère. Rien ne l'aurait plus amusé que cette mort. Il aurait été le premier à en rire.
Funérailles du général.
Thank you.
vacuité d'un dimanche, bestialité humaine, expression toute faite, dissociation des idées de la chair et des os, férocité de l'enfance, poésie miraculeuse de la vie quotidienne. Voilà comment Jean Cocteau résumait son œuvre Les Mariés de la Tour Eiffel, que nous entendions réciter ici par Pierre Bertin, qui faisait partie du spectacle il y a un siècle, et Jacques Duby, avec l'Orchestre National de l'ERTF, dirigé par Darius Milhaud. Et c'est la marche funèbre d'Arthur Honegger qu'on entendait là, marche funèbre qui marque la mort de ce général mangé par un lion, ce qui, 3 ans après la Première Guerre mondiale, a fait grincer quelques dents lors de la création qui avait été houleuse, comme le disait tout à l'heure Jean Cocteau, aux côtés de Francis Poulenc. Suite de cette partition, Les Mariés de la Tour Eiffel, cette fois-ci avec en récitant Jean-Pierre Aumont et Raymond Jérôme, l'ensemble Erwartung, dirigé par Bernard Desgroupes sur France Musique.
Le beau-père parle sur la tombe. Que dit-il ?
Adieu, adieu, vieil ami. Dès vos premières armes, vous avez fait preuve d'une intelligence très au-dessus de votre grade. Votre fin est digne de votre carrière. Nous vous avons vu, bravant le fauve, insoucieux du danger, ne le comprenant pas et ne prenant la fuite qu'une fois que vous l'aviez compris. Encore une fois, adieu, ou plutôt au revoir, car votre type se perpétuera aussi longtemps qu'il y aura des hommes sur la terre.
3 heures. Et cette autruche qui ne rentre pas.
Elle aura voulu rentrer à pied.
C'est stupide. Rien n'est plus fragile que les plumes d'autruche.
Attention.
C'est juste. Les mariés de la Tour Eiffel, quadrille, par la musique de la garde républicaine, direction Parès.
Bravo, 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 vive la garde républicaine.
Thank you.
L'ensemble Erwartung était dirigé par Bernard Desgrobes dans ce quadrille composé par Germaine Taillefer qui a donné deux contributions à ces mariés de la Tour Eiffel. La valse des dépêches et donc ce quadrille qui a été ici orchestré par Marius Constant. Alors revenons sur France Musique à cet enregistrement de 1966 en compagnie de l'ON, l'Orchestre National de l'ORTF dirigé par Darius Milhaud et puis les récitants Pierre Bertin et Jacques Duby. Suite et fin de cette partition créée il y a 100 ans, le 18 juin 1921, au Théâtre des Champs-Élysées, à Paris.
Ouf, quelle danse!
Votre bras?
Monsieur le photographe, vous ne refuserez pas une coupe de champagne?
Vous êtes trop aimable, je suis confus.
À la guerre comme à la guerre!
L'appareil sursaute.
Mais que veut mon petit-fils?
Je veux qu'on m'achète du pain pour donner à manger à la Tour Eiffel.
On le vend en bas, je ne vais pas descendre.
Je veux donner à manger à la Tour Eiffel.
On ne lui donne qu'à certaines heures. C'est pour cela qu'elle est entourée de grillages.
Je veux donner à manger à la Tour Eiffel.
Non, non et non.
L'enfant trépigne. La noce pousse des cris. Car voici l'autruche. Elle s'était cachée dans l'ascenseur. Elle cherche une autre cachette. Le chasseur approche. Le photographe voudrait bien qu'elle rentre dans l'appareil.
Il se souvient qu'il suffit de cacher la tête d'une autruche pour la rendre invisible.
Il lui cache la tête sous son chapeau. Il était temps.
L'autruche se promène, invisible, un chapeau sur la tête. Entre le chasseur.
Avez-vous vu l'autruche?
Non.
Non. Non.
Non, non.
Non, non, nous n'avons rien vu.
Non, non, rien.
C'est étrange. Il m'avait bien semblé qu'elle sautait sur la plateforme.
C'est peut-être une vague que vous avez prise pour une autruche.
Non, la mer est calme. Du reste, je vais la guetter derrière la boîte de ce phonographe.
Aussitôt dit, aussitôt fait.
Le photographe s'approche de l'autruche sur la pointe des pieds. Que lui dit-il?
Madame, vous n'avez pas une minute à perdre. Il ne vous a pas reconnu sous votre voilette. Dépêchez-vous, j'ai un fiacre.
Il ouvre la portière de l'appareil. L'autruche disparaît.
Sauvée, mon Dieu!
Vous imaginez le bonheur du photographe. Il pousse des cris de joie.
La noce l'interroge.
Messieurs et dames, je vais enfin pouvoir vous photographier tranquillement. Mon appareil était détraqué. Il fonctionne. Ne bougeons plus.
Mais quels sont ces deux personnages qui viennent déranger le photographe?
Regardez. La noce et le photographe se figent. La noce est immobile. Ne la trouvez-vous pas un peu...
Un peu gâteau.
Un peu bouquet.
Un peu joconde.
Un peu chef-d'œuvre.
Le marchand de tableaux modernes et le collectionneur moderne s'arrêtent devant la noce. Que dit le marchand de tableaux?
Je vous mène sur la Tour Eiffel pour vous faire voir avant tout le monde une toile unique, la noce.
Et le collectionneur répond:
je vous suis, les yeux fermés.
Ah, est-ce beau? On dirait un primitif.
De qui est-ce?
Comment de qui est-ce? C'est une des dernières choses de Dieu.
Elle est signée?
Dieu ne signe pas. Ah, est-ce peint? Quelle pâte! Et regardez-moi ce style, cette noblesse, cette joie de vivre. On dirait un enterrement.
Je vois une noce.
Vous voyez mal. C'est plus qu'une noce. C'est toutes les noces. Plus que toutes les noces. C'est une cathédrale.
Combien la vendez-vous?
Elle n'est pas à vendre, sauf pour le Louvre. Et pour vous? Mais tenez, au prix d'achat, je vous l'offre.
Le marchand montre une grande pancarte.
La pancarte porte le chiffre 1 million.
Le collectionneur va-t-il se laisser convaincre? Que dit-il?
J'achète la noce.
Ah.
Le marchand retourne la pancarte. On lit « Vendu » en grosses lettres. Il la pose contre la noce.
Le marchand de tableaux s'adresse au photographe.
Photographiez-moi cette noce avec la pancarte. Je voudrais les faire paraître dans tous les magazines américains.
Le collectionneur et le marchand de tableaux quittent la tour Eiffel.
Le photographe s'apprête à prendre la photographie, mais, ô prodige, son appareil lui parle.
Que lui dit-il ?
Je voudrais... Je voudrais...
Parle, mon beau cygne.
Je voudrais rendre le général.
Il saura bien se rendre lui-même. Le général reparaît. Il est pâle. Il lui manque une botte et une moustache. Somme toute, il arrive de loin. Il racontera qu'il revient d'une mission sur laquelle il doit garder le silence. La noce ne bouge pas. Tête basse, le général traverse la plateforme et prend une pose modeste parmi les autres.
Voilà une bonne surprise pour le collectionneur de chefs-d'œuvre. Dans un chef-d'œuvre, on n'a jamais fini de découvrir des détails inattendus.
Le photographe se détourne. Il trouve la noce un peu dur. Si elle reproche au général d'être vivant, le général pourrait lui reprocher de s'être laissé vendre.
Le photographe a du cœur.
Il parle. Que dit-il?
Allons, mesdames et messieurs, je vais compter jusqu'à 5. Regardez l'objectif. Un oiseau va sortir.
Une colombe.
L'appareil marche.
La pèse est conclue.
Une !
Le marié et la mariée se détachent du groupe, traversent la scène et disparaissent dans l'appareil.
Deux !
Le beau-père et la belle-mère disparaissent dans l'appareil.
Trois !
Les premiers garçons et demoiselles d'honneur disparaissent dans l'appareil.
Quatre !
Les deuxièmes garçons et demoiselles d'honneur disparaissent dans l'appareil.
5.
Même jeu pour le général, seul, tête basse, et l'enfant qui le traîne par la main.
Le directeur de la tour Eiffel. Il agite un grand porte-voix.
On ferme! On ferme!
Il sort.
Entre le chasseur. Il se dépêche. Il court jusqu'à l'appareil. Que dit le photographe?
Mais où allez-vous?
Je veux prendre le dernier train.
On ne passe plus.
C'est honteux! Je me plaindrai au directeur des chemins de fer.
C'est pas ma faute. Tenez, votre train. Le voilà qui part.
L'appareil se met en marche vers la gauche, suivi de son soufflet comme de wagon.
Par des ouvertures, on voit la noce qui agite des mouchoirs et par-dessous, les pieds qui marchent.
Sur France Musique, un siècle jour pour jour après la création des Mariés de la Tour Eiffel, vous avez entendu intégralement ce spectacle sur un texte de Jean Cocteau, récité ici par Pierre Bertin, Jacques Duby et Caroline Claire, avec l'Orchestre National de l'ORTF dirigé par Darius Milhaud. Dans ce dernier extrait, on entendait quelques ritournelles de Georges Auric, qui aurait dû à l'origine composer l'intégralité et qui a demandé à ses petits camarades des groupes des six d'écrire cela, ses petits camarades que Darius Milhaud, qui concluait avec cette sortie de noces. Darius Milhaud va de nouveau travailler avec Jean Berlin, qui était le chorégraphe de ce spectacle de 1921, chorégraphe des ballets suédois de Rolf de Marais, des ballets qui étaient installés au Théâtre des Champs-Élysées dans la première moitié des années 20. Et en 1923, Darius Milhaud, pour Jean Berlin, crée la création du monde, enfin il compose la création du monde sur un livret de Blaise Cendrars avec des décors de Fernand Léger, une partition créée le 25 octobre 1923 au TCE à Paris, et dont voici un extrait avec l'Orchestre National, dirigé par Jean Martinon. Thank you. Quelques accents jazzistiques dans cette partition de Darius Milhaud, La création du monde, créée en 1923, avec l'Orchestre national de la radio-télévision française dirigé par Jean Martinon. C'était pour un spectacle des ballets suédois de Rolf de Marais, chorégraphie de Jean Berlin. Nous avons commencé cette émission largement consacrée aux mariés de la Tour Eiffel avec un extrait du ballet Parade d'Éric Satie, créé en 1917, début de la formation du groupe des Six, qui cesse officiellement d'exister en 1924. Et bien justement, cette année-là, 1924, Jean Berlin, avec ses ballets suédois, présente un nouveau spectacle instantanéiste, je cite, avec deux actes, un entracte cinématographique et la queue du chien. Et la queue du chien, fin de citation. L'entracte, eh bien, c'est le court-métrage Entracte de René Clair, film qu'on peut voir sans problème avec bonheur sur Internet, avec le cinéaste, avec Jean Berlin, avec Francis Picabia et avec Éric Satie, coiffé de son chapeau melon, sautillant au ralenti autour d'un canon. La musique de relâche est signée du maître Satie, ici avec l'orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire.
Thank you.
Un extrait de Relâche d'Éric Satie sur un argument de Francis Picabia. C'est le 4 décembre 1924 au Théâtre des Champs-Élysées qu'avait écrit cette partition avec l'orchestre de la Société des Conservatoires dirigé par Louis Oriacombe. Et après Relâche, voici Relax avec Lionel Esparza.
Ça, c'est bien vu ça.
Bonjour
hein.
Lionel.
Bonjour François-Xavier Chomchak. La semaine prochaine, dites-moi, on va commencer lundi à 21 juin. C'est la grande journée des vents sur France Musique.
Absolument. Et nous écouterons à l'opéra ou dans le répertoire symphonique eh bien des solos de flûte, de cors, de hautbois ou encore de clarinette.
On vous souhaite un bon week-end.
Bon week-end.
À réécouter sur francemusique.fr.